Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Est-ce que les religions sont nécessaires? Est-ce que l'idée de Dieu est utile? On pourrait épiloguer et faire des débats, mais aujourd'hui nous allons voir ce thème avec un regard jeune et sur le plan de la philosophie. Mon invitée est Léonie Caffio et je vais la laisser se présenter. Bonjour Léonie, je suis sûre que les auditeurs vont reconnaître votre voix. Vous pouvez nous dire pourquoi ?
Bonjour à tous, chers auditeuristes. Alors effectivement, j'espère que vous reconnaîtrez ma voix parce que parfois Stéphane à la programmation passe mes chansons sous le nom de Loélie et je suis technicienne et animatrice à la radio FM+.
Mais si je vous ai demandé de participer, c'est pas seulement parce que vous connaissez bien la radio et que vous avez une jolie voix, mais aussi parce que vous faites des études de philosophie et que, travaillant dans une radio protestante, quoique vous-même non chrétienne, vous avez des choses à nous dire. Alors, on va parler de l'idée de Dieu. Vous l'avez étudiée en philosophie.
Oui, je l'ai étudiée en philosophie dans mes études. Actuellement, je suis en troisième année en distanciel. Et je l'ai étudiée aussi dans mes autres études en musicologie et au lycée, comme tout le monde, je pense. Et dans mon éducation, quoi.
Alors, pour vous, donc, au niveau de vos études de philosophie, est-ce que l'idée de Dieu est une nécessité philosophique ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que dans le cursus dans lequel je suis, pour l'instant, on est dans l'époque antique. On va un petit peu dans l'époque moderne en 1980 et un peu de nos jours. Mais c'est surtout en antiquité et on parle beaucoup de religion. Donc, c'est un peu sans religion, il n'y aurait pas de questions philosophiques dans le cursus où je suis. Et du coup, pour l'instant, oui, c'est nécessaire. Mais je pense que c'est comme ça que la philosophie est née, c'est grâce aux questions de la religion. Est-ce que Dieu existe? Quel est le bien, quel est le mal? Et ça se rejoint beaucoup sur certains sujets.
Alors vous pensez que c'est plutôt lié à l'époque donc, de l'Antiquité et qu'après le problème se pose moins? Ou est-ce que vous n'avez pas vraiment vu cet aspect des choses, l'historisation de la notion de Dieu?
L'historisation de la notion de Dieu n'est pas vraiment un sujet, c'est un peu omniprésent. Il n'y a pas la question qui se pose de est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. Il est tout le temps là dans la question. Même si on y croit, on n'y croit pas, on va tout le temps étudier pourquoi les gens y croient, pourquoi les gens n'y croient pas, qu'est-ce que ça fait, pourquoi y a cette notion de bien du mal, pourquoi on a besoin de se rassurer avec quoi que ce soit. Mais en philosophie, en tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ou que les philosophes qu'on découvre n'y croient ou n'y croient pas, c'est toujours une question primordiale, que ce soit une question de croyance ou une question de où va l'âme ou de notre propre but sur Terre.
Mais dans les théoriciens que vous avez cités, ils sont tous dans l'idée de Dieu. Il y en a pas qui critiquent l'idée de Dieu. Alors est-ce que on ne vous parle pas, ou est-ce que ça ne se trouve pas peut-être dans l'Antiquité des auteurs, voilà, c'était pas auditeur, c'était auteur que je cherchais, des auteurs qui disent tout simplement c'est un faux problème, Dieu n'existe pas.
Alors, pour l'instant, je n'en ai pas vu de dans mon parcours, mais je sais que plus tard, je vais en voir. Je n'ai pas encore les noms en tête, mais je sais que j'ai vu des titres de cours qui disaient la question de Dieu, le questionnement. Donc, je suppose qu'il y a forcément un ou deux philosophes qui étaient en mode non, ça, il faut arrêter avec ça. Mais c'est des approches différentes par rapport à Dieu. Il y a surtout dans la dualité du corps et l'âme, il y a des personnes qui séparent l'âme et le corps, et des personnes qui l'assemblent. Mais il y a des gens qui vont dire « Oui, mais Dieu n'est pas matière, donc le corps et l'âme ne sont pas matière et c'est tout dans notre tête. » Et il y a des personnes qui vont dire « Mais Dieu, c'est juste une présence qui fait qu'on sait aller, on sait vers où aller, vers le bien, vers le mal. » Mais il n'y a pas vraiment de oui, non. C'est juste que Dieu, sous différentes formes, sous différentes pensées, c'est, Je pense que c'est l'époque qui veut ça aussi.
Oui, c'est très clair ce que vous dites. C'est-à-dire que on ne critique pas la notion de Dieu vraiment, mais on ne sait pas trop où le placer. Quoi.
C'est ça.
Et donc, personne ne parle à ce moment-là, ou du moins on ne vous en parle pas, qu'on peut refuser la notion de Dieu pour avoir quand même une spiritualité. Ce n'est pas possible.
Dans ce que j'ai vu en tout cas, après je n'ai pas envie que d'autres philosophes me disent « Mais non, c'est n'importe quoi ce que tu racontes !» Dans ce que j'ai vu en tout cas, la notion de Dieu, elle n'est pas remise en question. Mais ceux qui n'y croient pas, on en parle. Et on dit souvent, s'ils n'y croient pas, où est leur morale? Comment ils font pour avoir une morale? Et c'est surtout ce questionnement-là qui est interrogé.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure du monisme, de la position donc de philosophique avec l'unité de l'être. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette philosophie?
Alors oui, c'était mon partiel de l'année dernière.
On est bien tombé.
Alors le monisme et le dualisme. Alors le monisme, c'est quand on dit que l'âme et le corps sont assemblés, c'est une seule et même chose. Et le dualisme, c'est l'inverse,
oui,
du coup.
Voilà,
voilà,
oui.
Donc c'est séparé. Et il y a un gros questionnement dessus parce que je pense que c'est un rapport, mais ça c'est hyper personnel comme idée. Je pense qu'il y a eu toute cette notion parce que l'homme veut pas accepter sa propre finitude, donc il veut pas accepter que quand on meurt, on meurt. Pardon, quand on meurt et que l'homme ne vit plus, n'a plus d'âme après. Du coup, je pense qu'il y a eu toutes ces questions-là. Mais ça reste un débat assez complexe parce que même si on n'est pas croyant, on ne peut pas répondre à cette question. Et donc, on peut se permettre de faire nos propres expérimentations là-dessus.
Mais alors, vous avez parlé donc effectivement de la finitude, qu'on a du mal à se représenter ça, mais il y a aussi la question de la morale, puisque vous avez dit brièvement que si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de morale. Et est-ce que vous ne trouvez pas à l'Antiquité des penseurs qui peuvent trouver une notion morale en dehors de l'idée de Dieu? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Dieu pour avoir une morale?
Alors, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est non, on n'a pas forcément besoin de Dieu pour avoir une morale. Je vais parler du coup d'un manuel qu'on m'a fait lire et lire et relire. C'est le manuel d'Épictète. Même si lui croyait en la présence d'un Dieu, il parlait aussi du fait, pour être un homme bien, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de soi. Il faut vivre bien, il ne faut pas être attaché aux choses, il faut faire des... Faut pas se faire de mal à soi pour faire du bien aux autres. C'était un peu ça. J'ai pas du tout aimé cette notion quand il disait ça. Mais par exemple, si notre compagnon décède, bah, il faut pas être triste parce que c'est pas de notre fait. Mais il faut juste continuer et faire les choses bien pour être une personne bien, être une personne belle. Sauf que ça enlevait toute la notion d'émotion derrière. Du coup, il y a toujours ces notions de... C'est très radical comme idée.
Mais pourtant, il parle de que rien ne dépend de nous et que on est toujours sous le regard de Dieu. Alors il le met où finalement, puisqu'il veut pas le mettre partout. Enfin, mais il le met à quel endroit?
Ça serait paradoxal comme manière de le dire, en tout cas, parce que Manuel d'Épictète, c'est aussi des réinterprétations de d'autres personnes plus modernes. Parce qu'il n'a jamais écrit le manuel, il a juste donné des cours et pris juste ses notes de cours, on a fait un manuel avec. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il parlait quasiment jamais de Dieu dans ce que j'ai lu, mais il le sous-entendait en disant que de toute façon Dieu est là, c'est pour ça qu'il veut qu'on fasse telle ou telle action. Mais pour être un homme bien, il ne faut pas penser à ça, il faut penser que rien ne dépend de nous. Mais du coup, tout dépend de Dieu. Je ne sais pas si c'était vraiment comme ça qu'il fallait l'interpréter, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais je ne sais plus ce que je vais dire dans cette phrase.
Disons que moi, ce qui me vient à l'esprit en vous entendant, c'est que c'est quand même très typé antiquité, cette façon de penser. Est-ce qu'on peut le concevoir à notre époque? Est-ce que ce n'est pas difficile pour vous, une jeune femme de, je sais pas, 20...
J'ai 22 ans le 11 novembre.
Bon, alors 22 ans, donc, le 11 novembre. Est-ce que ce n'est pas difficile de comprendre ces notions qui sont un peu compliquées et surtout un peu datées historiquement?
Alors, c'est très compliqué et je ne sais pas si c'est parce que j'ai cette notion de féminisme, etc., etc., mais on n'a que le point de vue des hommes. Donc, j'aimerais bien savoir déjà à cette époque comment les femmes pensaient, mais elles n'avaient pas le droit de parler. Et oui, cette notion est très datée parce que généralement, j'ai l'impression que c'est j'ai eu cette idée, j'ai pu réfléchir 5 minutes et du coup, cette idée est une vérité, même si c'est pas ce que la philosophie dit. Il y a plusieurs philosophies. Et quand on regarde actuellement, il y a des notions qu'on peut quand même appliquer aujourd'hui. Par exemple, Épictète, moi, il m'a beaucoup aimé sur mon rapport à la mort. Aidé sur mon rapport à la mort. Mais sur tout ce qu'il disait au quotidien, ça ne pouvait pas du tout coller sur aujourd'hui bien avec sûr. Tout ce qu'on fait. Parce qu'on a des addictions aux écrans, on a des addictions... Enfin, rien ne dépend de nous, mais tout dépend de nous si on veut continuer à vivre dans une société, en tout cas en 2025. Mais... En Antiquité, je ne sais pas comment ça se passait, parce que je n'étais pas là.
Ben non. Et alors, Aristote, Dieu est très, très présent. Il est la source du mouvement, il est la source du changement, il est au sommet de la grande chaîne de l'être. Et pourtant, il n'a pas de lien avec la matière. Alors, c'est un peu curieux, ça.
Ben justement, ça reparle du monisme et du dualisme. Il en parlait beaucoup, Aristote. Il n'a pas de lien avec la matière, mais parce que il me semble qu'il disait que rien n'était de matière, qu'on n'avait pas... Enfin, on ne savait pas vraiment comment définir la matière ou la différence entre ce qui était un corps inerte ou un corps vivant. Donc c'était un peu compliqué pour Aristote, mais je sais qu'il voit tout dans le prisme de Dieu et qu'il a écrit un manuel... Non, il n'a pas écrit un manuel, mais il y a l'éthique de Nicomaque, un truc comme ça, fait par Aristote, ou peut-être que je confonds des artistes, des philosophes, mais... Tout est sur le prisme de Dieu avec Aristote. Et puis on dit que c'est le père de la philosophie. On en mange beaucoup d'Aristote.
Mais si, ça me fait penser là à un débat que j'ai eu ici. Mais je ne l'ai eu pas qu'avec une seule personne, avec un physicien chrétien qui croyait en Dieu, mais qui ne croyait pas que Dieu était le créateur. Actuellement, donc quelqu'un de vivant aujourd'hui. Donc, et ça, il y a beaucoup de pasteurs qui mettent Dieu, qui intervient dans notre vie, mais qui n'est pas le créateur, parce qu'ils ne croient pas à Dieu qui fait le Big Bang, pof, comme ça. C'est une position assez fréquente dans le protestantisme. Et finalement, ce sont des débats qui, d'une certaine façon, avaient déjà lieu à l'Antiquité, puisque selon les philosophes, ils ne savent pas très bien où le mettre. Soit il est la source du mouvement, soit il n'est pas la source du mouvement, soit il est un, soit il est deux. Soit... Finalement, on n'a pas beaucoup avancé. Quoi.
Non, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est un questionnement éternel. Et je pense ne pas être la seule à penser ça. Il y a beaucoup de le verbe penser dans ma phrase. C'est que les religions ont aussi un côté extrêmement philosophique. Enfin, on a parfois, au lycée, je me souviens, il y avait eu des moments de, je crois que c'était de la Bible, qui rappelaient un autre courant de la philosophie. Enfin, c'était des trucs très sensibles, des enseignements de vie. Enfin, ça s'assemble et à la fois, c'est totalement différent. Enfin, c'est très rigolo.
Il y a beaucoup de théologiens protestants qui sont philosophes et vice-versa. Hein. Alors maintenant, on a parlé tout à l'heure, on a vu un peu, très rapidement, c'était vraiment un survol rapide, mais on n'a pas le temps de faire autre chose. Mais la relation entre Dieu et l'homme, donc sur le plan philosophique, dans l'Antiquité. Et vous, donc en tant que jeune, que étudiante, est-ce que la relation entre Dieu, sans parler de savoir s'il est là ou s'il n'est pas là, de savoir s'il a créé ou pas créé, s'il est un ou s'il est deux, est-ce que c'est possible d'avoir une relation entre Dieu et l'homme? Et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est pas utile? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je ne sais pas si mon avis va être compris par tout le monde, mais je ne dirais pas que c'est nécessaire, mais parfois Dieu, on le remplace par n'importe quel mot. Je ne sais pas si... Je vais prendre l'exemple des personnes, par exemple, qui n'ont aucune angoisse sur le fait de mourir et qui s'en foutent, ils disent « il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien ». Justement, eux, ils se rassurent dans le fait qu'il n'y a rien. Donc, c'est une forme de croyance et une foi dans ça. Donc, ce n'est pas que c'est nécessaire, mais je pense que l'humain, on va parler parce que les femmes aussi, ont toujours besoin de se rassurer dans quoi que ce soit. Personnellement, je me considère comme bouddhiste. J'ai une philosophie très bouddhiste depuis des années. On en parlera plus tard. Et pourtant, je ne crois pas en la réincarnation, tout ça, mais je pense pas à quelque chose de créateur, mais quand je suis toute seule et que je vais remercier en disant que je suis reconnaissante, etc., de tout ce que j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un et ça me rassure. Donc, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, même si on me dit que non, je suis toujours sûre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous rassure, même si c'est pas, on va pas l'appeler Dieu, même si c'est, je sais pas, quelqu'un qui va parler à son chat comme s'il allait lui répondre. Enfin, c'est un spectre très très grand pour moi cette question.
Alors, on va peut-être prendre une phrase très simple, la phrase de Pascal que beaucoup de gens connaissent, hein, qui parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non le Dieu des philosophes et des savants. Est-ce que ce Dieu de relation, vous pouvez le concevoir, puisque vous étudiez en fait le Dieu des philosophes et des savants, est-ce que vous pouvez concevoir ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est, je rappelle, hein, c'est une façon de dire, de parler de la relation en fait, puisque Abraham parle à Dieu, Dieu parle à Abraham. Abraham, Isaac, pareil, Jacob, de nouveau. Alors, est-ce que vous concevez ce... Qu'est-ce que vous en pensez, d'ailleurs, de cette phrase et qu'est-ce que ça vous inspire ?
Moi, ça m'inspire, encore une fois, l'homme et sa solitude et l'homme qui regarde et qui... C'est un être fini. Enfin, on est quand même la seule espèce dans laquelle on est consciente qu'on va, à un moment donné, on va partir. On ne sait pas où, mais on va partir. Donc moi, ça me rappelle surtout la solitude de l'homme qui a besoin de se rassurer dans quelque chose. Donc que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, dans tous les cas, même s'il existe, il va pas toquer à notre porte demain et dire « Coucou, comment tu vas ? Je vais prendre soin de toi. » Mais je pense qu'on se rassure, l'homme a besoin de se rassurer parce qu'il est au courant de sa finitude.
Et vous avez donc, vous l'avez dit au début, vous avez une licence de musicologie. En tous les cas, vous n'avez peut-être pas parlé de licence, mais vous avez dit que vous étiez musicienne. Et donc, vous avez une licence de musicologie. Vous avez étudié les chants religieux. Vous les avez chantés. Est-ce que vous y avez trouvé quelque chose dans ces chants ? Est-ce que vous y avez trouvé l'émotion ? Est-ce que vous y avez trouvé Dieu ? Est-ce que vous n'y avez rien trouvé ? Voilà.
Alors, bah, je ne peux pas dire que j'ai trouvé Dieu, du coup, parce que j'ai pas d'avis arrêté sur cette question. Mais j'ai trouvé un plaisir immense à chanter ces chansons-là parce que, en tout cas, à l'époque, ils étaient motivés pour faire des chants qui sonnent bien, qui font comme si on avait l'impression d'arriver aux portes du paradis. C'était vraiment très cool, surtout qu'en première année de musicologie, on était 175, donc 175 à chanter tous avec différentes voix, c'était magnifique. Bon, après, à la fin de l'année, on était 26. Mais c'est pas le sujet. Mais ça me faisait rire d'apprendre que la religion était quand même omniprésente, même pour ceux qui ne croyaient pas dans la vie, en tout cas en France, et dans la musique. Par exemple, on a un intervalle de musique qui s'appelle le triton, donc trois tons, et on dit que c'est l'intervalle du diable, et qu'à l'époque, je crois que c'était les chrétiens, ou je ne sais plus, qui ils chantaient jamais cet intervalle de musique, parce que c'était waouh, c'était la note du diable. Donc, c'est assez rigolo de voir ça, alors que maintenant, on l'utilise dans le rock, on l'utilise dans le punk, enfin, on l'utilise beaucoup. Et chanter ces chansons, du coup, dans le chant lyrique, c'était très, très agréable, parce que parfois, on parlait juste d'un petit agneau qui allait gambader, on était là, ouh, tout, 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 tout. Du coup, c'est très apaisant de les chanter, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, là, c'est juste... On sort un peu de la réalité, c'est sympa.
C'est le plaisir, c'est l'émotion aussi. C'est parce que tout à l'heure, ce qu'on avait l'impression, c'est que c'était pas très émotionnel de ce que vous étudiez en physique. En physique, justement, ça va pas. En philosophie. C'était pas très, très émotionnel. Et là, donc, là, vous êtes finalement, vous êtes plongé dans un monde spirituel en musique.
Ah oui, mais je continue aujourd'hui. J'ai gardé tous mes chants lyriques et même j'avais histoire de la musique en plus de ça. J'ai gardé tout mon paquet et quand j'ai un petit coup de mou, je vais aller les réécouter. Hein. C'est vraiment. Enfin, je vous conseille. Hein. Ça fait vraiment une soirée. C'est super.
Et alors, vous m'avez dit que à ce moment-là, la musique, c'était des outils pratiques. Enfin, la musicologie pour apprendre. Et vous avez ajouté, je n'en connais pas plus. Alors, est-ce que vous opposez la connaissance avec l'émotion? Est-ce que vous opposez les deux ou est-ce que c'est simplement une façon de dire, bon, j'ai pas été plus loin ou est-ce que ça veut dire que l'émotion ne débouche pas sur quelque chose?
Non, je pense que c'était plus dans le terme professionnel parce que je pense que qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas la musique, si on écoute une musique qui nous touche, elle nous touche, point barre. Même si on a l'oreille absolue et tout ça, elle nous touche, bon. Si on a l'oreille absolue, au moins on sait pourquoi les choses sont faites ainsi. Mais ça nous touche moins bas. Mais j'en connais pas plus dans le sens où parfois je vais me sentir inférieure à d'autres personnes qui en connaissent plus. Et je pense que ça, c'est parce que je suis une humaine avec des failles.
Mais
nous sommes tous des humains et dans ce studio des humaines même et avec des failles.
Ah, mais c'est ça qui est compliqué parce que souvent dans après je m'éloigne un peu du sujet mais dans le monde de la musique il y a beaucoup de personnes très prétentieuses qui vont te faire croire que t'as pas ta place parce que justement t'as pas toutes les connaissances absolues et alors que finalement la musique et même à l'époque on la notait pas du tout. Du coup, oui. Pendant les chants grégoriens, pendant les... Oui. on les a notés beaucoup plus tard. Et même les troubadours qu'on disait qui chantaient les chansons dans la rue et que les gens rechantaient, ça n'a jamais été noté nulle part et c'était juste un partage. Et maintenant, on est très, très cadré. J'ai l'impression que c'est des mathématiques. Et je suis en mode de... On est juste des humains qui aiment la vie, chantons.
Alors là, on est loin, effectivement, de... Comment dirais-je, moi, d'une recherche, d'une connaissance chez vous. Alors, l'émotion, la connaissance, mais surtout l'émotion, ça va peut-être un petit peu... pas tout à fait très bien, enfin je sais pas, avec le sentiment bouddhiste qui recherche la non-émotion. Je me trompe, j'y connais pas grand-chose.
Non, c'est très juste. Mais justement, je suis un peu une bouddhiste en carton.
Émotionnelle.
Émotionnelle, voilà. Je suis plus dans le sens où j'ai arrêté de manger de la viande très tôt, j'avais 11 ans et demi, 12 ans. Et j'étais un peu ma dictatrice. Non, vous ne pourrez pas manger de la viande. Bref, voilà. Et plus tard, j'ai découvert le mouvement bouddhiste, enfin la religion, etc. Je me suis renseignée dessus. Et j'ai vraiment aimé le fait que, bon ça aussi on le dit dans les religions, mais entre la religion et ce que certaines personnes les appliquent, c'est un peu différent. On aime son prochain, on ne juge personne, il ne faut pas être matérialiste, je le suis trop. Ça, c'est un peu de philosophie qui m'a beaucoup apaisée quand j'avais peur, surtout sur mon rapport à la mort qui est catastrophique. Le fait juste d'entrer en soi, de se poser... Avec de la musique de méditation, justement, c'est quelque chose d'apaisant et je remercierai tous les jours l'univers ou quoi que ce soit pour ces moments de connexion avec soi-même et avec la Terre, c'est super agréable. Même si rien de tout ça existe et tout ça c'est dans ma tête, je suis très reconnaissante de le vivre quand même.
On n'est pas très loin de la religion parce que oui, moi oui. Je connais des pasteurs qui disent peut-être que tout ça n'existe pas mais finalement je suis bien comme ça et que au moins pendant ce temps-là je suis heureux puis après ben, on verra bien.
Mais c'est pour ça que je trouve que la religion est très utile aussi dans un sens pour l'homme.
Et alors, dans la philosophie bouddhiste, est-ce qu'on a besoin de Dieu ? On va revenir quand même sur Dieu, puisque c'était au départ notre point de départ. Est-ce qu'on a besoin de Dieu ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il n'existe pas ? Moi, je connais très très peu. Je viens de faire quelque chose sur l'hindouisme, mais le bouddhisme, je ne connais pas beaucoup. Alors, éclairez ma lanterne un peu.
Alors, il y a des personnages principaux, dont les noms sont très compliqués pour moi, mais il y a des personnages principaux, mais il n'y a pas vraiment de Dieu. Parce qu'on dit tout le temps Bouddha, mais Bouddha,
c'est pas un dieu. Non.
Mais il y a des gens qui le pensent. C'est pas des dieux, c'est plus des énergies.
Ouais.
On ressent les énergies de chacun et ça reste voilà, des énergies pas plus que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a une grosse part du bouddhisme qui pense fort à la réincarnation,
oui.
Qui pense aussi que, par exemple, la lampe devant moi a une âme. Mmh. Et pourquoi pas, finalement ? Pourquoi je déciderais qu'elle en a pas ? Mmh. Mais il n'y a pas vraiment de dieu compris. C'est pas compris, on demande pas forcément. On remercie ce qu'on a et on est dans la gratitude.
C'est peut-être une notion de prière. Enfin,
oui, c'est une prière.
On peut parler de la prière, mais il y a la prière de demande oui. Où on dit. Moi, je me rappelle quand j'étais petite que j'avais pas étudié mes leçons, j'allais prier. J'étais catholique à ce moment-là. Je passais devant une église et puis j'allais prier pour avoir une bonne note. C'est un peu anecdotique ce que je dis. Mais enfin, il y a la prière de demande. Qui peut d'ailleurs être tout à fait honorable hein, quand on demande quelque chose pour les autres notamment ou même pour soi-même. Et puis il y a la prière de remerciement. Il y a comme vous disiez, je suis heureuse, c'est bien, etc., etc. Et donc on pourrait parler effectivement de la prière. Mais on va quitter ce domaine. Alors je voudrais venir là. Vous êtes dans une radio protestante.
Bon. C'est ça.
Je ne vais pas vous demander ce que vous pensez des protestants. Ça serait vous piéger vous seriez un peu obligé de dire des choses. Mais par contre, je vais vous demander si vous avez pu dégager une notion de Dieu dans cette radio, dans ce que vous entendez ou non.
C'est pas une notion de Dieu, mais j'ai enlevé beaucoup d'a priori que j'avais sur la religion protestante parce que je ne connaissais rien. Et pour moi, je mélangeais un peu les catholiques, les protestants, je ne connaissais pas forcément la différence. Et j'ai trouvé quelque chose de très moderne. Finalement, exemple typique, j'ai découvert que les protestants acceptaient la plupart du temps les personnes homosexuelles. Et j'étais en mode, ah mais oui, c'est pas du tout comme je le pensais, comme on m'a raconté. Du coup, ça m'a ouvert les yeux sur ça. Et j'ai vu que c'était... Il y avait une notion de on avance avec son temps, que peut-être qu'il y a dans les autres religions, mais du coup, j'ai été confrontée à la religion protestante grâce à la radio également. Enfin, du coup. Et il y avait une femme, je ne me rappelle plus de son nom, elle avait fait... Elle parlait des passages de la Bible, et elle disait... Et il y a un truc qui m'a marquée, c'était que Adam a été créé, et ensuite, par une côte, a été créée la Ève. Et au final, non, c'était... Mmh. Elle a bien raconté que c'était, du coup, juste quelqu'un, et la femme a été créée, mais c'était la femme et l'homme ont été créés en même temps, c'était pas la femme vient de l'homme. Et j'étais en mode, oui, girl, merci de le dire. Du coup, j'ai pas forcément, juste j'ai enlevé des a priori, je pense, et que ça m'a aidé à avoir une ouverture d'esprit digne d'une bouddhiste.
Alors, c'est sympa. Je précise quand même que, effectivement, dans les institutions, l'Église protestante essaye d'être moderne ou sans a priori. Les personnes, malheureusement, oui, c'est pas toujours ça.
Le souci.
Il faut pas penser que les protestants sont meilleurs que les autres. Bon. Et alors, le Dieu, enfin, bon, on va parler de Dieu, voilà, l'idée de Dieu que vous avez trouvée, est-ce que c'est un différent de ce Dieu que vous étudiez en philosophie, c'est-à-dire, et celui que vous avez chanté, dans celui que vous chantez, il y avait la colère de Dieu, le créateur, évidemment, qui est mâle, puissant, est-ce que vous avez trouvé un autre Dieu
Une autre idée de Dieu, je pense que oui, parce que c'est vrai que toute petite et tout ça, pour moi, Dieu, c'était un garçon avec des cheveux longs et basta, quoi. C'était ça dans ma tête. Et finalement, pour moi, Dieu, maintenant, n'a pas de genre, parce que pourquoi il en aurait un si c'est Dieu ? C'est pas un humain.
Ah non.
Et il n'a pas de couleur non plus. Je pense que c'est plus une entité forte, si tout ça existe, etc., que... un humain qui s'est pris au-dessus des autres dans la société patriarcale et qu'on a dit que c'était Dieu. J'ai vraiment compris la différence entre, que ce soit la religion protestante ou toutes les religions, entre la religion et comment les... Pardon, je tape sur la table. Et comment les humains font parler de leur religion. Et c'est comme ça qu'il y a des guerres, etc. Alors que si on reprend, je pense, à la racine, ce serait beaucoup plus apaisé et que c'est les humains un peu le problème. Voilà.
Et maintenant, je voudrais terminer là-dessus, c'est les œuvres chrétiennes. Est-ce que, vous êtes dans une radio protestante, vous enregistrez des gens qui parlent des œuvres de l'entraide, de la CIMADE, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, que vous connaissiez, est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec Dieu ou simplement par rapport à ces personnes qui font ça? Comment vous voyez ces œuvres? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus?
J'ai une opinion assez neutre, on va dire. Je pense que déjà, les personnes font du bien pour se faire du bien et je trouve ça assez génial. Et effectivement, généralement, c'est des personnes religieuses qui font ces œuvres-là. Mais je pense que c'est aussi très personnel, que c'est un acte très personnel avant d'être un acte religieux. Donc je n'ai pas forcément d'idée, tant mieux qu'ils le font, qu'ils le fassent, et puis merci de le faire.
Eh bien, maintenant, c'est à moi de vous remercier, Léonie, d'être passée de l'autre côté du micro.
Avec plaisir.
Et de nous avoir partagé ces éléments de réflexion. Merci à
Olivier
pour la réalisation, et merci à nos auditeurs, et à bientôt.
Merci, Yolande.
Thème et anathème. Une émission proposée par Yolande Gounelle.